aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guerriec en direct de Washington DC. Bienvenue dans Le Monde Aujourd'hui, édition du lundi 20 mars 2018. À la une ce soir, en France, Nicolas Sarkozy placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur le financement libyen de sa campagne de 2017.
Ça prouve bien évidemment que nul n'est au-dessus des lois. Que vous ayez été ancien président de la République ou pas, la justice, lorsqu'elle passe, elle n'épargne personne.
En RDC, les autorités traquent les faux magistrats. Plus de 200 individus ne remplissent pas les conditions requises. Aux États-Unis, une série d'attaques à la bombe inquiète le Texas avec un cinquième colis piégé en 10 jours. Dans 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord, le journal. Au Mali, le Premier ministre Soumaïlou Boubey Maïga a annoncé qu'il va effectuer cette semaine une tournée dans des localités du centre et du nord du Mali, dont Kidal, sous contrôle de l'ex-rébellion, une première depuis 2014. La meilleure démarche est donc de se rendre sur place sans arrogance, avec le sens de l'écoute, connaître les attentes urgentes des populations, a-t-il ajouté, sans préciser si la coordination des mouvements de l'Azawad, ex-rébellion à dominante Touareg, avait posé des conditions à sa venue. Au Tchad, les fonctionnaires ont repris le travail après une grève de 7 semaines contre des mesures d'austérité imposées par le gouvernement en début d'année. Toutes les structures sanitaires de N'Djamena étaient opérationnelles ce mardi et les activités dans les différents ministères avaient repris, d'après l'AFP. La reprise était cependant plus timide dans certains établissements scolaires. En République démocratique du Congo, les autorités ont identifié au sein de la magistrature plus de 200 individus ne remplissant pas les conditions pour exercer cette profession. L'annonce a été faite par Alexis Tambwe Mwamba, ministre de la Justice. On fait le point avec Yakuba Ouedraogo.
D'après l'un des enquêteurs, une commission d'enquête a examiné les qualifications et la régularité des conditions de recrutement des magistrats du siège et du parquet. Environ 4000 magistrats civils et militaires sont actuellement en fonction dans le pays. Plus de 200 individus vont devoir être extirpés du corps de la magistrature pour n'y maintenir que des vrais magistrats, a affirmé Alexis Tambwe Mwamba, ministre de la Justice. Il a expliqué que certaines personnes concernées sont déjà aux arrêts pour les cas les plus flagrants, ajoutant que d'autres ont déserté leur bureau. De nombreux justiciables et des ONG de défense des droits de l'homme accusent souvent la justice congolaise d'être corrompue. En octobre dernier, le garde des Sceaux a fustigé la lenteur dans l'administration de la justice. Il a aussi dénoncé les arrestations et les détentions transformées en instruments d'intimidation et de terreur contre les inculpés pour les amener à corrompre les juges.
RDC toujours, un avocat proche de l'opposant Moïse Katumbi a été libéré dans la nuit de lundi à mardi après 6 jours de détention dans les locaux des renseignements militaires. Maître Papi Mbaki ne fait l'objet d'aucune poursuite, a déclaré à l'AFP l'Association congolaise pour l'accès à la justice. Il affirme avoir été arrêté à cause de banderoles à l'effigie de Moïse Katumbi et des fanions de son parti trouvés dans sa voiture. Les Nations Unies, l'Union Européenne, l'Allemagne, la France et les États-Unis invitent le pouvoir et l'opposition du Togo à une discussion de fond sur les réformes constitutionnelles et électorales en vue de parvenir à un accord. Le dialogue entamé le 19 février a été suspendu après la deuxième séance. Point de discorde, le retour à la constitution de 92 qui implique une limitation à deux des mandats présidentiels. Amnesty International accuse l'armée nigériane d'avoir ignoré les mises en garde répétées sur les mouvements de combattants de Boko Haram dans l'état de Yobe, quelques heures avant et après l'enlèvement de 110 jeunes filles dans leur école à Dapchi. L'Organisation de défense des droits de l'homme assure que les forces militaires avaient été alertées sur la présence de groupes djihadistes lourdement armés dans les environs et qu'elles ne sont pourtant pas intervenues. Tunisie, le président Béji Caïd Essebsi a évoqué une réforme du mode de scrutin pour les élections prévues pour décembre 2019, soulignant qu'il était nonagénaire, 91 ans depuis novembre. Monsieur Essebsi a laissé planer le doute sur sa propre candidature à la présidentielle.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, nouvelle fusillade dans un lycée du Maryland près de Washington. Un lycéen a tiré sur deux de ses camarades. L'assaillant est décédé après un échange de coups de feu avec un agent de sécurité, a indiqué le shérif local. Aux États-Unis toujours, nouvelle explosion d'un colis ce matin dans un centre de distribution de FedEx à Schertz, dans la région de San Antonio, au Texas. Un employé a été blessé. Les précisions de Blanche Sanou.
Alors que la police est toujours à la recherche d'un poseur de bombes en série à Austin, un autre engin a explosé dans un centre de tri de FedEx. Selon le Washington Post, le colis était destiné à une adresse d'Austin où quatre explosions avaient fait deux morts. La police de la ville de Schertz, où s'est produite l'explosion, a indiqué sur sa page Facebook que le colis avait explosé dans la partie où se fait le tri et qu'une personne a été soignée sur place avant de repartir. Elle n'a pas précisé la destination du colis. Pour l'heure, les forces de l'ordre traquent le poseur de bombes sans succès. Les bombes dissimulées dans des paquets étaient jusque-là déposées directement devant les habitations des victimes. La police avait d'abord évoqué la piste de crime raciste. Après les trois premières explosions, toutes les victimes étant noires ou hispaniques, mais la quatrième explosion a blessé deux hommes blancs, faisant penser aux enquêteurs que les cibles étaient visées de manière aléatoire.
Le président Donald Trump reçoit ce mardi le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman à la Maison Blanche. Le jeune prince cherche un soutien de Washington sur les réformes qu'il a engagées et sur l'Iran. Abdourahmane Dia.
Le ministre saoudien des Affaires étrangères Adel Al-Jouber a donné le ton, estimant que les deux alliés, Riyad et Washington, ont des visions pratiquement identiques sur le Yémen, l'Afghanistan et l'Iran. Pour le chef de la diplomatie saoudienne, il y a deux visions antagonistes dans la région, celle de la lumière portée par le royaume sunnite et la vision des ténèbres poussée par l'Iran chiite. Il a critiqué ce qu'il appelle les défauts de l'accord sur le nucléaire iranien dont le président américain menace de se retirer. Le nouvel homme fort de Riyad, âgé de 32 ans, va prolonger sa visite aux États-Unis avec une longue tournée de près de 3 semaines dans plusieurs villes américaines. Après Washington, il ira samedi à Boston et à New York, alors que se profile l'entrée en bourse très convoitée du groupe public pétrolier saoudien Aramco. Il s'entretiendra aussi avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, avant de se rendre sur la côte ouest des États-Unis auprès des géants des nouvelles technologies comme Google et Apple. Il rencontrera aussi sur place des professionnels du divertissement, mais aussi de la défense.
Le président Donald Trump a appelé aujourd'hui Vladimir Poutine pour le féliciter sur sa réélection lors d'un appel où les présidents américains et russes ont évoqué une possible rencontre au plus haut niveau, selon le Kremlin. Les présidents américains et russes se sont par ailleurs dit favorables à une coordination de leurs efforts afin de limiter la course aux armements. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou affirme que la barrière électronique placée le long de la frontière israélo-égyptienne avait sauvé Israël d'attaques djihadistes et ce qu'il a qualifié de pire menace, c'est-à-dire l'arrivée massive de migrants illégaux africains. Selon le ministère de l'Intérieur, 42 000 migrants africains vivent en Israël, principalement originaires du Soudan et d'Érythrée. En France, l'ex-président Nicolas Sarkozy a été placé en garde à vue aujourd'hui dans le cadre de l'enquête sur les soupçons de financement libyen lors de sa campagne présidentielle de 2007. Les précisions avec Didier Dico.
Les policiers anticorruption qui ont interpellé Nicolas Sarkozy entendaient également en audition libre l'un de ses anciens proches, l'ex-ministre Brice Hortefeux. C'est la première fois que l'ancien chef de l'État français est interrogé dans cette procédure instruite par les juges financiers depuis 2013. Au cœur de ce dossier sur de possibles financements libyens pour sa campagne de 2007 figurent des accusations formulées par l'homme d'affaires franco-libanais Ziad Takieddine et d'ex-dignitaires libyens. Fin 2016, Takieddine avait affirmé avoir remis 5 millions d'euros d'argent libyen au camp Sarkozy peu de temps avant son élection à la présidence. Ces accusations ont été cependant démenties par d'autres personnalités libyennes et contestées par Nicolas Sarkozy. À l'issue de la garde à vue, pouvant durer jusqu'à 48 heures, Nicolas Sarkozy peut être remis en liberté, présenté à un juge en vue d'une éventuelle inculpation ou convoqué ultérieurement.
Sache enfin qu'Emmanuel Macron a prononcé un discours sur la francophonie aujourd'hui. Le président français a fixé l'objectif de doubler le nombre d'élèves dans les lycées français à l'étranger, qui accueillent actuellement près de 350 000 jeunes dans 500 établissements à travers le monde. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et on enchaîne sur la Minute Éco avec Eric Maniratiza.
L'ABAD va appuyer un projet routier de 208 km pour relier le Rwanda à l'Ouganda. C'est un financement de plus de 93 millions de dollars et représente 51% du coût total, estimé à 376,5 millions de dollars. Il est aussi prévu la construction de deux marchés transfrontaliers à Kagitumba et Arusumo, la réhabilitation de 10 centres de collecte de lait et de 10 forages. Le projet assurera également la formation de 1600 femmes venant de cette association et facilitera la plantation de 41 500 arbres. L'ABAD soutient le Rwanda au niveau des infrastructures de transport, l'énergie, l'eau, les compétences et le développement du secteur privé. Le gouvernement du Cap-Vert a mis son veto à la construction d'un centre africain de formation avec un statut de zone franche. Le coût de ce projet avoisine les 125 millions de dollars sur une superficie de 2,5 km². Le gouvernement a refusé de fournir le soutien institutionnel pour promouvoir et mobiliser le financement du projet. En Égypte, un tribunal administratif du Caire a interdit les services de voitures de transport avec chauffeur Ouba et Karim. Les chauffeurs de taxi avaient manifesté contre les deux compagnies et accusé les chauffeurs de VTC de ne pas payer les droits pour l'utilisation de leurs véhicules de transport.
Buffle sur les stades, les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Mangane, bonsoir à tous.
Réunion à Zurich pour sauver le football ivoirien en crise.
Et oui, les différents acteurs de la crise qui secouent le football ivoirien se retrouvent ce mardi à Zurich sur invitation de la FIFA, cette dernière souhaitant discuter des mesures à prendre pour surmonter la situation actuelle. Les délégations, que ce soit celle de la Fédération ivoirienne de football, des dirigeants des clubs, doivent être représentées par 3 membres chacune. On se souvient que des clubs et plusieurs groupements d'intérêt ont réclamé le 29 décembre dernier une assemblée générale extraordinaire pour réclamer le départ du président de la Fédération ivoirienne, Augustin Sidi Diallo, à la suite de la non-qualification de la Côte d'Ivoire au Mondial 2018 qui aura lieu cet été en Russie.
Nouveau report du procès d'Issa Hayatou au Caire.
Eh oui, la Cour économique du Caire a reporté au 16 avril le procès d'Issa Hayatou et d'Hicham El Amrani. L'ex-président de la Confédération africaine de football et l'ancien secrétaire général de la CAF sont accusés par la justice égyptienne d'avoir violé les règles locales de la concurrence en signant un contrat avec la société française Lagardère Sport portant sur la gestion des droits marketing et médias du foot africain, un contrat gigantesque d'1 milliard de dollars garanti avec la société française en échange de la gestion des droits marketing et médias du foot africain jusqu'en 2028.
Match amico pour les équipes africaines.
Certaines équipes nationales du continent qui préparent les suites des éliminatoires pour la CAN 2019, tandis que l'Égypte, le Maroc, le Nigeria, le Sénégal et la Tunisie sont sur le pont en vue de la Coupe du Monde en Russie. À suivre ce mercredi, Togo, Madagascar et jeudi, Algérie, Tanzanie, Burkina Faso, Guinée-Bissau, Zambie, Zimbabwe, Afrique du Sud, Angola, Thaïlande, Gabon et Macao face à Maurice.
Et enfin la NBA, championnat de basket nord-américain.
LeBron James a à nouveau su faire la différence en faveur de Cleveland face à Milwaukee, 124 à 117. Les Spurs de San Antonio se sont offerts un peu de marge pour les playoffs face à Golden State, victoire 89 à 75. Dans les autres matchs, les Pacers de l'Indiana se sont imposés face aux Lakers, 110 à 100. Philadelphie qui l'emporte sur Charlotte, 108 à 94. Enfin, Miami a fait durer le suspense jusqu'au bout avec une double prolongation avant de s'imposer face à Memphis, 149 à 141.
Merci Nicolas.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guerriec en votre compagnie, place au dossier du jour. Première escale, la République centrafricaine. Après plusieurs années de crise, la RCA est en quête de stabilité politique et toutes les institutions du pays ont participé à une rencontre sur la notion de bonne gouvernance, initiative soutenue par l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Sur place à Bangui, Freeman Sibila.
La rencontre est dénommée retraite de haut niveau et a connu la participation des principaux cadres du pays, ministres, anciens ministres, chefs des institutions de l'État, mais aussi cadres de l'espace francophone. Faustin Archange Touadéra, président centrafricain.
L'histoire des nations comporte des épreuves et des événements parfois douloureux. Et la République centrafricaine n'en a pas été épargnée. Elle a traversé un moment sombre de son histoire, avec les douloureux événements qui ont suivi le coup d'État du 24 mars 2013 et qui ont mis à mal la paix, l'unité nationale, le vivre ensemble et surtout le fonctionnement des institutions républicaines. Le choix du thème principal de cette retraite de haut niveau, stabilité institutionnelle et le redressement national, cadre bien avec ces défis qui s'opposent à notre pays, entre autres la restauration de l'autorité de l'État à travers des institutions nationales solides, stables et complémentaires.
Trois jours d'échange ont permis aux envoyés spéciaux de la francophonie de partager leurs expériences aux décideurs centrafricains. Le message clé, la cohésion entre les institutions de l'État et le respect des rôles. Désiré Kadra Ouédraogo, ancien Premier ministre du Burkina Faso.
Les relations interinstitutionnelles doivent se dérouler à l'aune du respect mutuel des prérogatives de chaque institution, mais aussi de la concertation et de l'information permanente. Le fait que les pouvoirs soient séparés et indépendants ne signifie pas qu'ils doivent être cloisonnés et qu'il ne doit pas y avoir de concertation entre eux. Cette concertation doit se faire de façon informelle et discrète.
Dans son intervention, Louis Michel, ancien ministre de la coopération de la Belgique, a insisté sur l'intérêt public.
C'est le président Bouteflika, il y a bien 15 ans maintenant, qui me disait, jeune ministre ou tout nouveau ministre, je lui parlais des droits humains en Algérie. Et il a eu cette phrase, un homme très cultivé, il a eu cette phrase qui m'a un peu sidéré, mais qui dans le fond est pleine de bon sens. Mon cher ami, c'est très bien de me parler des droits humains, mais je vais parler des droits humains à mon peuple et aux citoyens quand j'aurai réussi à leur faire manger à leur faim. Bon, le simplement dire par là qu'on peut évidemment tenir des discours de transparence, tous les beaux discours qu'on veut, et je suis évidemment un tenant de ça, mais il faut aussi simplement générer, garantir la survie minimale au peuple.
Cette rencontre de haut niveau devrait permettre la refondation des institutions centrafricaines et assurer une stabilité politique. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Washington Forum braque les projecteurs sur le sommet de l'Union africaine. Les dirigeants africains se réunissent ce mercredi à Kigali, au Rwanda, pour signer l'accord cadre de la zone de libre-échange continentale, un projet ambitieux qui semble ne pas faire l'unanimité. Quel est l'enjeu de cet accord? Sera-t-il endossé par un grand nombre d'États africains? Comment tirer parti de la force des opérateurs économiques du continent pour favoriser l'intégration panafricaine? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h en temps universel avec Raissa Giroudin.
En France, la campagne présidentielle victorieuse de Nicolas Sarkozy en 2007 a-t-elle profité de financements libyens ? L'ex-chef de l'État français a été placé en garde à vue pour la première fois dans ce dossier sur lequel la justice enquête depuis 5 ans. À l'issue de cette garde à vue, qui peut durer jusqu'à 48 heures, il peut être remis en liberté, présenté à un juge en vue d'une éventuelle mise en examen ou convoqué ultérieurement. Pour en parler, John Lindon, adjoint à Bruxelles, Henri-Désiré Nzouzi, expert en relations internationales.
Ça prouve bien évidemment que nul n'est au-dessus des lois. Que vous ayez été ancien président de la République ou pas, la justice, lorsqu'elle passe, elle n'épargne personne. Nous avons le précédent de Jacques Chirac, qui lui aussi avait été rattrapé par la justice à la suite de plusieurs affaires le concernant. On a bien compris que la justice avait déjà commencé à s'intéresser à ce dossier sulfureux depuis maintenant plusieurs années, dès la victoire de François Hollande d'ailleurs, dès que Sarkozy n'était plus en fonction. La procédure étant longue, bien évidemment, là il s'agit d'un aboutissement à la lumière des derniers éléments apparus dans le dossier. Donc c'est un signal très fort à l'endroit, je dirais, de l'opinion publique qui renouvelle évidemment cette exigence de justice à la fois pour tous et surtout le fait que personne ne peut se placer au-dessus de la loi.
Cela veut-il dire qu'on peut envisager un scénario où le président Nicolas Sarkozy est envoyé en prison ?
Non, c'est peu probable compte tenu du statut qui était le sien d'ancien chef d'État. Je pense plutôt qu'il pourrait connaître le sort qu'avait à l'époque subi notamment Alain Juppé, qui avait été condamné avec sursis. C'est beaucoup plus probable, me semble-t-il, car là, ce serait un verrou supplémentaire qui sauterait, mais je ne suis pas certain que la justice soit disposée à aller en tout cas aussi loin. Mais en tout état de cause, les accusations concernent Nicolas Sarkozy, en tout cas dans ce dossier, si elles devaient déboucher sur condamnation, eh bien, ce serait un signal très fort à l'endroit de ceux qui s'aventureraient à bénéficier de soutien extérieur dans le cadre d'une campagne électorale.
Justement, des présidents occidentaux qui bénéficient des financements des chefs d'État africains, quel message cela envoie en Afrique ?
C'est un très mauvais signal, bien évidemment. D'un côté, vous avez ceux qui dénoncent l'ingérence d'une certaine France-Afrique dans les affaires intérieures des États, et de l'autre, vous avez des chefs d'État qui, soucieux peut-être de préserver la pertinence de leur lien avec cette même France, mettraient la main à la poche pour le soutenir. Ça n'a aucun sens, et cela relève bien évidemment de la complicité, et puis surtout du fait que ce ne sont pas les intérêts bien compris des populations qui sont pris en considération, mais plutôt les intérêts bien compris d'une petite élite affairiste, ce qui, de mon point de vue, justifie amplement le rejet aujourd'hui que l'on peut avoir vis-à-vis de certains régimes en Afrique.
Henri Désiré Nzouzi, expert en relations internationales. L'Union africaine met en place les fondations d'une zone de libre-échange continentale. L'ASDEC pourrait devenir la plus vaste zone de libre-échange au monde. 27 chefs d'État sont attendus à Kigali pour signer l'accord instituant la création de l'ASDEC. Quels sont les avantages sur les économies des pays membres ? Comment rendre opérationnel cette ASDEC ? Éric Manirakiza a joint à Dakar, spécialiste de l'Union africaine, à l'OSIWA, Ibrahim à Cannes.
Vraiment une étape non seulement importante, mais une étape critique. Si l'on veut vraiment que l'Afrique puisse avoir sa place dans l'économie du 21e siècle.
Et quelles sont les retombées positives sur les économies des pays membres ?
Premièrement, booster le commerce intra-africain. D'après les chiffres que l'on a à l'heure actuelle, 70% du commerce mondial actuel est occupé par l'Europe. L'Amérique du Nord à peu près 54% et l'Afrique, le commerce intra-africain n'est que de 16%. Donc 84% de notre commerce est fait avec les pays occidentaux. Et c'est cette tendance qu'on veut renverser. Au moins avoir la moitié du commerce fait entre les États africains. La deuxième chose, c'est que quand on fait du commerce entre pays africains, on développe les infrastructures. On fait en sorte qu'il y ait des circuits commerciaux, qu'il y ait des routes, qu'il y ait des ponts, que le transport aérien intra-africain soit bénéfique mais aussi utile pour les Africains. Et quand ce commerce intra-africain se développe, ce sont les exportations des États africains qui se développent. Les chiffres que l'on a sont effarants. 3% des exportations dans le monde sont africaines, seulement 3%, alors que nous sommes un des continents les plus riches de cette planète. En essayant de développer cela, on peut amener les économies africaines à prendre une autre dimension.
Comment rendre opérationnelle cette zone de libre-échange quand on sait que les zones d'intégration régionale ne fonctionnent pas correctement ?
Tout le le monde sait quels sont les goulots d'étranglement au niveau des communautés économiques régionales. D'abord, par leur nombre, ils sont nombreux. Pour ne prendre que ma région, qui est l'Afrique de l'Ouest, on a pratiquement la CEDEAO, on a l'Union économique et monétaire de l'Union africaine, on a la communauté du Mano River, on a le Liptapo Gourma. Donc, il faudrait que dans ce processus aussi, on essaie de rationaliser les communautés économiques, d'une part. D'autre part, qu'il y ait de la cohérence dans le fonctionnement de ces communautés économiques. En Afrique de l'Ouest, pour vous donner encore un bel exemple, on a la zone franc CFA, on a une autre zone qui est libre où vous avez pratiquement 5 monnaies nationales. Pour que les économies fonctionnent bien, pour qu'il y ait des échanges, il faudrait que les États aient la même monnaie régionale d'abord et ensuite une monnaie continentale. L'exemple de l'euro en Europe est vraiment un bel exemple.
Ibrahima Kane, spécialiste de l'Union africaine à l'Ossiwa.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Les autorités chargées de la protection des données dans l'Union européenne se sont saisies de l'affaire Cambridge Analytica. Cette entreprise liée à la campagne électorale de Donald Trump est visée par des révélations sur l'utilisation de données personnelles de millions d'utilisateurs de Facebook. Herman Umbo a recueilli la réaction de Julie Owono, directrice de l'association Internet sans frontières à Paris.
Malheureusement, nous n'étions pas surpris à Internet sans frontières puisque nous faisons partie de ces organisations qui, depuis 2010-2011 maintenant, alertent sur les dangers potentiels de laisser une entreprise comme Facebook et comme bien d'autres, hein, Facebook n'est pas la seule, récolter autant de données personnelles et aussi précises sur des milliards aujourd'hui d'utilisateurs dans le monde. Et surtout, nous étions inquiets déjà depuis 2010 sur l'opacité qui règne autour de les méthodes de collecte de ces données personnelles.
Vous voulez dire que tous ceux qui ont leurs données personnelles sur la toile ne sont pas protégés, c'est ça?
A priori non, il y en a qui sont bien mieux lotis que d'autres, bien sûr, comme par exemple les utilisateurs de l'Union européenne, puisqu'il faut rappeler que l'Union européenne vient de se doter d'un règlement sur la protection des données personnelles qui s'appelle le RGPD et qui va rentrer en vigueur dans tous les pays européens à partir du 25 mai 2018. Et donc ce règlement protège les utilisateurs européens. Pourquoi ? Puisqu'il impose à toute entreprise qui traite les données personnelles d'utilisateurs se trouvant dans l'Union européenne, il leur impose de mettre en place des paramètres qui, par défaut, protègent la vie privée.
En Afrique, il y a des millions d'abonnés à Facebook, à Twitter, sans oublier les détenteurs d'une adresse électronique. Vous voulez dire qu'ils courent également les mêmes risques ?
Bien sûr, ils ne sont pas du tout protégés. Vous vous rappelez, en 2016, on a appris que les serveurs de la société Yahoo disposaient d'une porte dérobée qui donnait accès directement à la NSA aux données qui appartiennent à des utilisateurs, aux milliards, c'était des milliards de comptes détenus par Yahoo. Beaucoup d'Africains, y compris même des dignitaires, utilisent des adresses e-mail en yahoo.fr ou .com. Donc aujourd'hui, ces utilisateurs-là ne savent même pas ce qui est vraiment advenu de leurs données personnelles. On sait juste que la NSA y a accédé, mais est-ce que ça veut dire que demain, quand certains se rendront aux États-Unis, on pourra leur mettre face à eux certaines des données qui auraient été récoltées de manière illégale, finalement, dans les serveurs de Yahoo? Ça, c'est une question qu'on peut poser.
À votre avis, comment remédier à cette situation et protéger véritablement les données personnelles des utilisateurs d'Internet, des réseaux sociaux d'une façon générale?
Il faut adopter des régulations. Je citais tout à l'heure le règlement général de l'Union européenne, qui est un cas d'école très intéressant. C'est un bon début. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais inciter les plateformes comme Facebook, c'est-à-dire ne pas collecter données personnelles par défaut et ne le faire que lorsque l'utilisateur donne son consentement express, c'est un début.
Julie Owono, directrice de l'association Internet sans frontières à Paris. C'est la fin de cette édition. À la mise en onde de Georges Léonard Seigneau, présentation Morgane Guiriec. Ainsi va le monde aujourd'hui. On continue la conversation sur Facebook. Partagez vos points de vue, vos photos, commentez des sujets, posez des questions même. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24. Au revoir.
écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.